Phil PM. Faut que je te raconte.
Je suis bouleversé, j'ai eu peur de le perdre, le jeune. Pendant une heure, ça n'a pas été évident, parce que pendant une heure, à chaque instant, on avait l'impression que j'allais sauter, puis là, j'ai arrêté en voiture, et je suis sauté par-dessus la barrière pour aller m'adresser à lui. Puis, tout de suite, pour entrer en contact, pour qu'il parle, j'essaie de garder le contact, je vais voir que les policiers arrivent. Et...
Voici Michel Barrette.
Un moment assez dramatique. Ce que vous venez d'entendre, c'est Michel Barrette qui appelle la radio que vous écoutez le 12 septembre 2013 parce que tu venais d'intervenir à ce moment-là. Michel, salut.
Oui, bonjour Bernard.
Tu venais d'intervenir auprès de quelqu'un qui menaçait de s'enlever la vie sur le pont Jacques-Cartier, hein, c'est bien
oui,
ça?
Un jeune homme, alors au bout d'une heure de discussion, moi en compagnie de... Finalement, il y a eu un agent de la Sûreté du Québec. Il y en a eu plusieurs, mais entre autres Alain Tremblay, agent de la Sûreté du Québec, qui est venu me seconder, on s'est auto-secondé et finalement, il a heureusement changé d'idée. Ça nous amène à parler, parce que ce matin, j'entendais notre collègue Paul Arcan parler à la mère de la jeune fille qui a mis fin à ses jours.
Émilie, oui.
Mm-hmm. Et ce que je retenais de sa discussion, mon cher Bernard, c'est que ce qu'elle semblait dire, et ça relève un peu de l'événement qui s'est passé maintenant, quoi, 6 ans, là, c'est que la dame disait, si la jeune fille avait eu un problème, exemple, de toxicomanie, d'alcoolisme, un problème autre que juste un mal à l'âme, là, elle aurait eu... Il y a des endroits pour ça. Il y a des gens qui reçoivent ces gens-là. Mais lorsqu'on est quelqu'un, comme le jeune homme sur le pont, là, moi, c'était pas un jeune... Les gens pensaient que c'était un jeune de la rue, drogué. Ou, non, c'était un jeune entrepreneur avec des associés, maison blonde. C'est quelqu'un qui, dans la vie, semble bien aller, mais pour... toutes sortes de raisons, de burn-out, appelez ça comme vous voudrez, a décidé de mettre fin à ses jours. Et quelqu'un comme ça, là, je vais utiliser un drôle de mot, on va appeler ça quelqu'un qui semble normal.
Oui.
On s'entend, on dit, il n'y a pas de problème apparent de toxicomanie ou de... T'sais. Mais ces gens-là, bizarrement, ont plus de difficultés à se faire rencontrer, discuter, soigner. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que je sais pas ta génération à toi, là, parce qu'on est, je suis un peu plus vieux que toi. Mm-hmm. Moi, quand j'étais jeune, là, on disait, c'était presque une insulte. Ah ouais, dis donc, j'ai le psy, il est fou, cet enfant-là. C'est si tu consultais, si tu avais besoin de consulter, comme beaucoup de gens, comme moi, comme plein de gens de ma génération auraient eu besoin de consulter, c'était une honte. C'était comme, tu t'entachais quelque part de dire... Cette personne-là, homme ou femme, là, ben, il y a des problèmes dans la boîte à poux. Alors, les gens n'osaient pas, en parler, encore moins consulter. Puis dans les familles, s'il y avait quelqu'un qui avait un problème, c'était caché. Des fois, on allait voir le curé. Puis là, notre petit ne file pas bien. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ta. Et si, par malheur, et je dis bien par malheur, quelqu'un commettait...
L'irréparable, oui.
Le drame, bien là, c'était une... Je vais le dire, c'est une honte pour la famille... décédé accidentellement, on cachait les raisons. C'est comme si c'était un constat d'échec pour les familles. Alors, je pense, Bernard, que ce matin, ce qu'on a le goût de demander aux gens, parce que de plus en plus, tu sais, il y a eu Michel Courtemanche, il y a eu Kevin Parent, il y a plein d'artistes, entre autres, qui ont dit, comme ça, simplement, je consulte, j'ai consulté.
J'ai eu besoin d'aide à un moment donné.
J'ai besoin d'aide, parce qu'on a parfois, j'allais dire, on a tous, à différents niveaux, mais je pense qu'on a tous, un moment donné dans notre vie, des passages un peu difficiles, perte d'emploi, rupture amoureuse, des moments où on aurait besoin d'une écoute, d'une oreille. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, puis il faut en parler. Parce que moi, si j'ai parlé de suicide, alors que je ne suis pas un spécialiste en matière de suicide, si j'ai parlé de suicide après mon expérience à moi à l'époque, à 25 ans, et l'expérience que j'ai vécue avec le jeune sur le pont, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut en parler.
Et d'ailleurs, et donc, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous avez surmonté la peur de consulter? Est-ce qu'à un moment donné,
la honte aussi.
La peur, la honte, mais à un moment donné, vous vous êtes dit, là, ça n'a pas de bon sens, je vais aller chercher de l'aide. La peur, la honte, oui, tu as raison. Le jugement de l'autre, le regard de l'autre, là, tu sais, d'être capable, à un moment donné, de lever les yeux. Puis de regarder un de tes enfants, peut-être, ou ta conjointe, souvent, ça commence par ça, ton conjoint, ta conjointe, puis dire, regarde, je pense que j'ai besoin d'aide. Et là, tu attends la réaction, là. Tu sais, tu attends la réaction parce que tu as peur de la réaction, Michel. Tu as peur de la réaction.
Mais voyons,
tu n'es pas faible de même. Tu sais, la réaction, genre, tu n'es pas faible de même, toi, là.
Tu es fait fort. Voyons donc. Hey, moi, je me souviens. Là,
va dormir, va te couper. Prends deux aspirines.
Hey, j'ai entendu de mon meilleur chum à l'époque qui m'avait dit, suite à la rupture amoureuse qui m'avait amené bébé bas, il m'avait dit la mère des femmes n'est pas morte, tu t'en trouveras un autre.
J'ai non, ça t'aide pas bien, ça, là.
La mère des femmes. En me disant, c'est comme... je vais vulgariser. C'est comme, écoute, ton char est fini, va t'en acheter un autre. Hey, on parle pas de... Je suis en deuil d'une relation amoureuse qui me fait mal, qui va m'amener loin. Puis tu me réponds, ben, trouve-toi une autre blonde. Comme si c'était un cendrier ou je sais pas quoi, là.
Alors, l'avez-vous surmonté, cette peur, cette honte, ce regard de l'autre? Et comment vous vous êtes convaincu à un moment donné que c'était le temps d'y aller? Ou peut-être que vous avez aidé quelqu'un à se convaincre d'aller chercher de l'aide? Hein? C'est un peu ça aussi, Michel. Là, c'est les deux, là.
Exactement. Puis quand vous avez des témoignages, parce que de plus, il y en a eu beaucoup cette année, des biographies d'artistes qui nous racontent leur bas-fond, là, et qui ont consulté dans la majorité des cas. Mm. Est-ce que vous êtes dit... Si ces gens-là connus et qui ont l'air d'avoir bien du fun dans la vie ont eu besoin d'aide, est-ce que ça vous a encouragé, vous, à aller chercher de l'aide si vous en aviez besoin?
Alors, 790-9850, 98985 par texto ou encore Drainville à commercial 985fm.ca. Tu vois, il y a quelqu'un qui me texte, Michel, qui me dit « Plus t'attends, plus la montagne te paraît haute. »
Exact.
Donc,
le premier pas, là,
le temps ne va pas nécessairement arranger les choses. C'est ça, l'affaire. Là.
Merci de dire ça, Bernard, parce que on peut. À l'époque où c'était, je n'ose pas dire honteux, mais c'était comme ça qu'on réagissait, où on cachait
nos faiblesses,
mal à l'âme, notre mal de vivre. Souvent, on vivait seul. Et quand on vit seul, la personne qui vient d'avoir un message a raison, ça va être de pire en pire. Quand on a la chance d'avoir un meilleur ami, quelqu'un de notre famille qui a de l'écoute et qui est prêt à écouter, ben c'est cette personne-là qui va d'abord écouter. La première oreille est importante. Et cette personne-là, si on en a confiance, va peut-être justement nous dire, écoute, moi, je suis ton ami, je suis ta mère, je suis ton père, je suis ta soeur, je suis ton frère. Écoute, je vais t'écouter puis je vais cheminer avec toi, mais je pense qu'on devrait consulter. On va rencontrer quelqu'un chez qui c'est la profession d'écouter et de trouver des solutions.
Mathieu, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, mon cher.
Moi, je peux témoigner, j'en ai fait plusieurs tentatives de suicide, dont une, il y a 3 ans, parce que je me suis retrouvé inconscient à l'hôpital. Je pense qu'à chaque fois qu'on consulte, on fait un petit bout de chemin. On s'en rend pas toujours compte dès le départ, mais après, on fait toujours un petit bout de chemin, un peu plus. Puis j'ai eu la chance, dans ma malchance, quand j'ai fait ma tentative, d'avoir un médecin qui a été là pour moi, puis qui m'a donné le temps, puis qui m'a ouvert toutes les portes qu'il pouvait ouvrir pour que je puisse m'en sortir puis m'aider. Mais je pense aussi que, excusez-moi,
correct,
que dans le fond, chaque personne qui va te demander de l'aide, il faut qu'on soit prête aussi nous-mêmes à faire le travail nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir le faire pour nous-mêmes, là. C'est juste nous qu'il faut qu'ils s'aident.
Oui.
Il y a de l'aide avec les médicaments.
Quand on n'est pas jugé, en plus, monsieur, là, quand vous parlez d'obtenir de l'aide, lorsque la personne en face de nous ne nous juge pas, il y a déjà une grande porte ouverte à la réussite parce qu'on est entendu.
J'ai jamais été jugé avec tous les médecins que j'ai pu voir. C'est sûr qu'il y a avec des médecins que ça a cliqué plus, puis d'autres moins. Mm-hmm. Mais je me suis jamais senti jugé. Mais oui, il fallait en parler. Puis oui, à un moment donné, il fallait que j'aille là à des places où je voulais pas aller.
D'accord.
Mais il a fallu que j'y aille en dedans de moi-même. Ça a fait mal. J'en ai broyé un coup. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise. Je travaille comme j'ai jamais travaillé. Je fais des sous. J'ai une conjointe qui est merveilleuse dans ma vie puis qui est là pour moi. Puis elle me soutient puis elle connaît mon histoire aussi puis elle sait qui je suis.
Ah ben c'est
aujourd'hui, bravo, ben, je peux pas me plaindre.
C'est une belle histoire, Mathieu.
Vivant,
belle histoire.
J'appuie sur le mot vivant.
Oui.
Parce que moi, là, je vous le dis, je n'étais pas un spécialiste en matière de suicide ou en santé mentale, mais le seul exemple que je donnais, c'était celui-ci, dans mon cas à moi, là, de mes 25 ans. Si, bon, mon père m'a sauvé la vie. Je ne vous conterai pas tout ça, mais Si, mettons, à quelques pas avant que je saute en bas du pont, on m'avait arrêté et on m'avait dit « OK, on te laisse sauter, mon chum, là. Mais maintenant, avant que tu sautes, je vais te montrer la vie que tu n'auras pas. Le plaisir que j'ai dans la vie, moi, mes enfants, puis ma blonde, puis ma job, puis mes affaires, puis le bonheur que je vis à tous les jours, ben j'aurais, je serais passé à côté de ça. Mais heureusement, bon, il y a eu quelqu'un, et c'est ce qui fait. Alors, je pense qu'il faut. C'est un beau message que le monsieur nous
donne. Ah, vraiment, vraiment. Que... Merci, Mathieu, pour l'appel. Denis, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, là.
Ben moi, ça m'a interpellé un peu parce que j'ai passé par là, il y a plusieurs années. Puis, après une séparation, c'est trop douloureux, une séparation, je suis remonté au bercail, puis j'ai été voir une amie, puis elle m'a dit, Denis, il faut que tu consultes. Moi, consulter, vous savez, quand que on ne fait pas confiance à tout le monde, puis on a peur du jugement un peu.
Quel âge avez-vous, monsieur?
Aujourd'hui, j'ai 58 ans.
Donc, vous étiez de la génération où c'était pas, on consultait pas d'emblée, là?
Non. Moi, j'aimais mieux rester avec mes problèmes, puis quitte à aller fumer un petit joint, puis passer le temps. C'était mieux comme ça. Puis là, avec les années, l'expérience, puis tout, ben là, tu dis, ben non, pas pour dire ça de même encore une fois, là. Fait que cette amie-là, elle dit, va voir tel docteur à telle place, puis il va t'aider. Moi, je peux bien y aller, mais tu sais, je doutais fort là, de tout ça. Puis là, pour une fois, je me suis dit, gars, je vais être honnête avec lui, je vais tout y raconter.
Oui.
Puis ma famille ne pouvait pas m'aider parce que je tirais bien trop de jus, j'étais en dépression majeure. Fait que à partir de ce médecin-là, lui, ils m'ont fait passer d'autres tests, ils m'ont envoyé à l'hôpital.
Et vous avez cheminé, puis vous nous parlez aujourd'hui.
Ben oui.
Ben justement, mais merci, monsieur, parce que c'est exactement ça, parce que, comme monsieur a dit, parfois les gens qui nous entourent, ben, sont bouleversés s'il arrive une tentative, ou même si quelqu'un est en dépression, des fois on ne comprend pas. Mais m'a donné un exemple, Bernard.
Merci,
quand
monsieur.
J'étais jeune, la meilleure amie de ma mère, elle disait, elle a des lunes. Là, je me souviens de madame, c'est quoi, elle a des lunes? Elle disait, elle est lunée. Aujourd'hui, on dirait sûrement qu'elle avait un trouble de bipolarité, parce qu'elle pouvait passer de quelqu'un qui était extrêmement joyeuse et animée, et tatata, puis on l'a retrouvée en train de pleurer dans le sous-sol pendant 2 semaines, tu sais. Mais elle n'a jamais consulté.
Puis, elle m'a dit, la médicamentation à laquelle on avait droit, où on avait accès il y a 10 ou 20 ans, Michel, il y a eu vraiment des avancées exceptionnelles. Oui. Là. Peut-être un dernier appel de Sonia. Bonjour, Sonia.
Allô?
Allô? On vous écoute, Sonia.
Oui, moi, j'ai commencé à consulter à l'âge de 13 ans.
Faites juste baisser votre volume de radio, s'il vous plaît, Sonia.
OK. C'est ça, j'ai commencé à consulter à l'âge de 13 ans, travailleur social dans un CLSC.
Mm-hmm.
Et je vais bientôt avoir 41 ans. Et je consulte encore aujourd'hui. Je suis une personne qui est borderline, donc c'est souvent typique au borderline, les tentatives de suicide, des dépressions et tout. Et j'ai appris à accepter que j'étais comme ça.
Mm-hmm.
Et les gens qui sont portés à me juger, ben je les entends juste plus. Je pense à moi. Je suis consciente que j'ai un problème. Et j'ai pas peur d'aller chercher de l'aide. Si le monde me juge, ben garde, juge-moi. Mais moi, ma vie est plus importante que la tienne.
Et voilà, parce que la maladie mentale, notre santé mentale, on jugera pas quelqu'un qui va nous annoncer qu'il y a le cancer. On va dire, hey, pauvre toi, j'espère que tu as des bons médecins, qui est cardiaque, n'importe quoi. Mais on a toujours, et c'est dommage, mais heureusement, de moins en moins, un regard différent lorsqu'on parle de santé mentale. Puis souvent, dire, ah.
Non, c'est très bon. Tu vois, j'ai quelques textos que je vais te lire, Michel. Bonjour, je suis la copine d'un homme de 27 ans qui a le mal de vivre depuis qu'il est né. Ses parents ne sont même pas au courant. C'est moi qui l'ai pris par un bras pour l'amener au médecin. Ça va faire un an en mai. Puis là, il n'y a pas eu de suivi avec le psychologue. C'est dommage parce qu'il a des passes encore très difficiles et aucune aide. Les cliniques sont pleines. Ah, j'ai le goût de vous dire, lâchez pas.
Non,
et rappelez la... Mettez de la pression. Un autre témoignage, j'ai travaillé 25 ans au service correctionnel du Canada. J'étais dans le PAE, le programme d'aide aux employés. J'ai rencontré plusieurs agents en détresse. C'est pas toujours de tout repos de convaincre quelqu'un de consulter. J'ajouterais dans ce domaine-là, ça doit être particulier parce que hein, faut que tu sois fort tout le temps là. Hein? Faut que tu
t'as pas de pleurer.
Et un dernier peut-être, le suicide est une solution permanente, un problème temporaire. Courage à ceux qui sont dans la tempête présentement. La vie vaut la peine d'être vécue. Suicide Action, Michel, je donne le numéro 1-866-277-3553. 866-277-3553. Ce que je retiens des appels, là,
oui.
Des fois, c'est juste un petit déclic.
Juste un.
Une discussion, une discussion, une rencontre, un rendez-vous, juste comme traverse la porte.
Traverse la porte. Et il y a quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à vous entendre. Parlez-en.
Alors, on va s'arrêter, Michel, parce qu'après la pause, une histoire plus joyeuse, oui. Quoique on ait un peu de tristesse à travers ça aussi, parce que c'est quelqu'un de vraiment formidable qui a décidé de sortir du sentier battu, puis de donner de la joie autour de lui. Et puis là, il s'est fait un peu rabattre le caquet, si vous voulez savoir c'est qui. Le caquet, je dis bien, après.
Oui. Après la pause.
Après la pause.
Drainville PM. Faut que je te raconte.
Tout est beau et bien. Ah, beau, bien beau, tout est bien.
Voici Michel Barrette.
Alors, vous venez d'entendre l'opérateur de métro Luc Dallaire dans une petite vidéo qu'on retrouve sur le site de La Presse. Luc Dallaire, c'est un opérateur de métro sur la ligne Orange, direction Côte-Vertu. C'est une belle histoire, Michel, sauf que là, c'est un petit peu plate ce qui est en train d'y arriver. Résume-nous ça, là.
Mais ce que j'en ai entendu, c'est qu'il y a des gens qui se sont plaints. Parce qu'ils disaient, pourquoi il fait ça? Pourquoi il chante? Pourquoi il donne pourquoi dans ses chansons, il y a des noms de stations et tatata? Alors, on l'a fait taire. Et je trouve ça triste parce que je trouve qu'on est de plus en plus straight. Des gens comme ça qui mettent de la couleur dans notre vie, là. Tu sais, tu prends le métro, tu as un gars qui chante les stations. C'est drôle dans ta barouette. Tu sais, c'est pas ton voisin.
Non, puis il était apprécié. Là. Ce qu'on comprend dans le papier de Marie-Ève Moraes de ce matin, c'est qu'il y a plein de témoignages, notamment sur Facebook, des gens qui prenaient le métro, parce que des fois, ils chantaient, mais des fois, ils faisaient des petits commentaires humoristiques. Mm-hmm. Ils donnaient des directives, mettons, en faisant des blagues. Et il y a des gens qui appréciaient ça, même que la mairesse Plante, à un moment donné, avait salué ça sur son Facebook en disant « Il embellit notre quotidien. Oh. » La direction de la société de transport avait dit « Écoutez, l'idée que les opérateurs de métro parlent aux clients, ça fait du chemin. Sauf que là, ce qui est rapporté, c'est qu'il aurait été rencontré par la direction. On lui a pas dit de se taire, mais on lui aurait dit, genre, ménage tes transports, va pas trop loin. Tu sais, on lui a donné des directives sur la manière de s'adresser aux clients. Ça, c'est une façon de dire. Veux-tu, s'il te plaît, rentrer dans le rang?
Rentrer dans le rang. Et souvent, là, ça vient pas d'une majorité. Ça devient d'une... Il y a de plus en plus de ça. Je tomberai pas dans le discours moi-tu le dis, en beau français, là? Tu sais, des gens qui cherchent des poux partout, là.
Ah, les chialeux, les chialeux.
Les chialeux.
Ah ouais, les chialeux.
L'appropriation culturelle.
Ah ouais, ouais, ouais.
Le bon, tu sais, t'as pas le droit de... J'ai l'impression de plus
ben,
en
c'est
plus...
comme de la censure. C'est une forme
c'est de
censure,
censure,
Michel.
Au quotidien, aussitôt que quelqu'un sort la tête du troupeau, là, il va se trouver deux ou trois personnes dans le troupeau. Il m'énerve. Comment ça qu'il parle de même? Non, c'est comme si on était tout beige. On roulait dans
mais
c'est
tu sais quoi le problème, Michel? Je vais te le dire. Puis d'ailleurs, si ça vous tente de réagir à cette histoire-là, là, parce que dans le fond, la question qu'on vous pose un peu, c'est est-ce que la différence est devenue quelque chose qu'on endure de moins en moins comme société. On a l'impression par moment qu'il faut que tout le monde soit pareil puis rentre dans le rang. Puis si ta tête dépasse, on te la coupe. Mais ce que j'allais te dire, c'est que le problème souvent, tu parles de la minorité de chialeux qui, à un moment donné, vont faire taire, mettons dans ce cas-ci, là, l'opérateur. Là. Bon, parce il y en a qui ont fait des plaintes parce qu'ils pensaient qu'à un moment donné, ils faisaient des commentaires à caractère religieux. Alors, c'est quelqu'un avec un mégaphone qui est intervenu, puis il y a eu confusion, bref. Mais ce que j'allais te dire, le problème, c'est pas juste la minorité qui chiale, c'est la direction, dans ce cas-ci, qui décide d'écouter la minorité, puis de plier devant la minorité, de pas en voir à un moment donné, excuse-moi là, mais les couilles pour dire, hey, ce gars-là, il est bon pour nous, il est bon pour le métro, il est bon pour le transport en commun. C'est un petit arc-en-ciel dans la journée des usagers, des fois, qui rentrent de travailler.
Comme on va voir à l'épicerie, comme on va voir dans le métro, comme un chauffeur de taxi qui est drôle, qui nous fait... On a besoin de ces gens-là qui mettent de la couleur dans notre vie, sinon la vie serait drabe.
Écoute, Jimmy, qui prenait apparemment la ligne, la fameuse ligne de métro. Bonjour, Jimmy.
En fait, c'est Kenny, c'est pas Jimmy.
Ah, Kenny, très bien, c'est pas grave.
Oui, ben en fait, je l'ai pris un mardi soir. Moi, je le connaissais pas du tout. J'ai pris le métro mardi soir. Je m'en allais au restaurant au centre-ville de Montréal. Puis, c'était vraiment très agréable. C'était pas déplacé du tout. C'était... En fait, c'était très joyeux. Moi puis mon ami, on a ri. Non, c'était très bien. Là, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont pleins de ça.
Qu'est-ce qui donnez-nous une petite idée là, de c'était quoi? Ils s'amusaient avec la station qui s'en venait ou?
Ben, en fait, moi je suis rentré à Laurier, puis jusqu'à Berry, ils chantaient pas mal. Puis de Berry jusqu'à Soir-Victoria, c'était je me souviens plus tout ce qu'ils disaient, mais c'était des commentaires cute, là. C'était pas rien de déplacé ni rien. Là.
Non, mais imagine...
Il chantonnait de Laurier à Berry-UQAM, c'était des petites chansons, là.
Mais oui, mais oui.
Merci, Kenny, pour... ben, c'est ça. Non, c'est merci pour l'appel. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis là, tu te dis, c'est quoi? Oui, la rectitude. C'est exactement le mot, mon gars. La rectitude radicale.
Radicale, exactement. C'est pas juste, t'as raison, c'est pas juste une gang de petits chialeux. Le problème, c'est que la gang de petits chialeux qui voudraient que tout soit drabe, puis qu'on soit tous entrés dans le rang, alors qu'on passe notre vie à faire justement essayer de sortir du rang, d'essayer de s'élever, d'essayer d'avoir du fun dans la vie. La vie est courte, d'essayer d'avoir un peu de couleur. Mais ces gens-là font que ça convainc parfois des patrons de les faire taire, de t'obliger à rentrer dans le rang.
Tu vois, regarde bien, j'ai deux réactions. Il y en a un qui dit, un auditeur qui dit, être le boss, j'aurais émis la directive que tous les conducteurs de métro chantent au moins une fois l'heure et dans le péteux les chialeux.
Bon, OK,
mais il y en a un autre qui dit, Philippe, il dit, attention, il dit, ça fait pas trop professionnel, imaginez le prochain qui voudra être plus drôle ou meilleur chanteur, me semble, puis je dis pas qu'il chante mal ou qu'il est pas drôle, mais ça fait un peu de ticoun versus d'autres grandes capitales.
Non, moi non plus. Tu sais, tu rentres dans un restaurant en France, puis même pas dans l'enfance, à Québec, dans un restaurant italien où le propriétaire, de temps en temps, sort l'harmonica, puis ah ouais, donc, fait une chanson entre les tables. Il va pas faire la voix, là. Mais, c'est sympathique. T'sais. Le gars de métro, t'es pas poigné avec pendant 8 heures, là. T'es poigné entre deux stations.
Mais non.
Ça va pas changer votre vie, là.
Mario qui nous appelle. Bonjour, Mario.
Oui, bonjour, vous deux. Écoute, moi, je trouve que c'est le fun. Je trouve que ça amène quelque chose, mais au même titre que dans les avions, vous avez sûrement vu comme moi, quand les agents de bord font les consignes de sécurité, mais en dansant, en chantant, ça amène quelque chose qui fait que les gens rient, ça détend.
Le message passe mieux en plus.
Ben c'est ça, puis on l'écoute. Alors que quand on prend l'avion, souvent, à un moment donné, on les écoute même plus, les consignes de sécurité. T'sais. Fait que, alors, je me dis, ce genre d'élément-là, ben, c'est le fun. Ça amène quelque chose de différent, puis ça devrait, à mon avis, être comme ça davantage.
Être encouragé. Oui, exactement. Merci, Mario. Merci.
C'est pourquoi nous, on est chanceux, les humoristes, nos salles sont pleines. Parce que les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin d'aller ailleurs que le mur beige. Ils ont besoin de sortir de leur univers quotidien et d'avoir un peu de folie dans leur vie. C'est ce qu'on leur offre, mais on pourrait leur offrir dans la rue, dans le métro, à l'épicerie, chez le médecin, dans l'avion.
Tu t'imagines, M. Dallaire, l'opérateur, là, la première fois qu'il a poussé la chansonnette un peu, là, il a pris un risque.
Oui,
il a pris le risque de se couvrir de ridicule, de faire rire de lui, mais il l'a essayé. Puis il a vu, j'imagine, à l'usure, que les gens souriaient, qu'il y avait des réactions positives, puis il a décidé de continuer. Mais là, le prochain Luc Dallaire qui nous écoute, là, penses-tu qu'il va avoir le goût, Michel, lui, de s'essayer? Ou penses-tu que Luce Dallaire, la prochaine fois, va avoir le goût? Ben non, parce qu'elle va se dire, « Ah non, si je suis trop original, si je sors un petit peu du rang, si je t'in... » Tu sais, ben non, rentre dans le rang, ferme ta gueule. Fais comme les autres. Sois beige. Tout le monde pareil.
Ah. On pensait qu'on avait... Tu sais, on a l'impression qu'on vit une époque où tout est beaucoup... Tu sais, le pot est légalisé, puis tatata.
On est dans une époque, là, m'a dire, où les... Il y a une espèce... Tout à l'heure, on parlait de la rectitude politique.
Oui.
C'est comme si... Il y a comme une... Des fois, là, il reste juste une façon de faire les choses. C'est la bonne façon. Il y en a une, c'est celle-là. Et si tu sors de là, prépare-toi, tu vas manger deux, trois claques à la gueule, deux, trois Facebook cochons, deux, trois tweets mesquins, méchants. C'est ça.
Pour qui tu te prends, toi?
En tout cas.
Tu vas te faire dire ça?
Ben oui.
Si tu sors du troupeau, là, tu vas te faire rabattre.
Non, puis là, les patrons tiennent pas leur bout. Ils ont peur, justement, de la critique. Ils ont peur des deux, trois chialeux. Fait qu'ils disent à l'original, ben rentre dans le rang, ferme ta boîte. Mais tout le monde est perdant à ce jeu-là. Michel, on se reparle demain?
Oui, bien sûr, jeune homme.
On s'arrête et au retour, l'histoire d'un jeune autiste, Asperger. Son père a écrit un Facebook déchirant. Je vous en parle après la pause.